Bon les gars, je sais que vous êtes revenus là voir parce que vous étiez au match de foot de rugby. Putain oui je sais, non mais je manque les All Blacks, mais ça va quoi, c'était TF1. Pas une noire. Comment ça, il y avait RMC. On pouvait écouter sur RMC.
Ah bon, ok.
On y va, on se met en place, vous me maquillez la speakerine là. La speakerine. Et midi 2 là. On n'aura pas le temps de la raser, non. Tant pis.
Ah, mon café.
Ah bah oui, s'il te plaît. Petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Les éclairages. Ok, on peut y aller.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24 septembre 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la retransmission sportive que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Ah oui, bah, je sèche là, je peux pas te dire, je sais pas, avec des, ouais non, je sais pas, des cérébrés frais, rafraîchissants, je sais pas, rafraîchissants. Allez, rafraîchissant, point d'exclamation, supplément week-end, voilà.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum d'Astrid et la participation exceptionnelle de JB. Pâté, non, il me semble. Le score, Dus ?
Ça faisait tout à l'heure 30.
Enfin, j'ai cru comprendre qu'on a réussi à marquer un essai, Dus. Toi qui as suivi ?
Oui, bah écoute, là je suis plus devant quoi. Enfin, bon, ils ont marqué un essai il n'y a pas longtemps. Bon, les autres, on en a marqué 4 avant. Mais...
Amis auditeurs, si vous voulez nous communiquer, puisque nous sommes copies du monde dans notre studio.
Paraît qu'ils
vous
ont insulté dans le haka, hein. Ils ont mais pas non, pris le traditionnel.
Il est tout simplement branché sur son YouTube, là, alors qu'on devrait être sur le site de la Coupe du Monde, quoi.
Ben ouais. Oh, alors, amis auditeurs, si vous voulez nous communiquer le score de la.
Non,
de,
on n'a pas les droits, on va payer les
match,
droits. On va payer les droits. Non, il en est hors de question.
Non, mais voilà, si vous voulez nous communiquer le score, vous faites le 0561 580 580.
Pas la peine, on les... D'accord. Ok. 32 à 10.
Ah ben voilà, c'est resté
mieux là.
Eh oui.
Ok.
Et c'est transformé,
voilà.
Bon, pas mal. D'accord. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Comme chaque année, depuis maintenant 3 ans, la radio est le off du festival Printemps de Septembre, puisque officiellement c'est Radio France hein, qui en est le partenaire,
ah
avec
bon
ses antennes comme France Culture, France Inter et le Move. Et comme chaque année, c'est la troisième année que on le fait. Si vous allez ce soir, c'est depuis hier. Hein, si vous allez ce soir au musée. À l'école des Beaux-Arts, dans la cour d'honneur, et ben de 22h30 à 1h, 2h du matin, enfin ça dépend, hein, figurez-vous que c'est la radio du bout de la nuit qui est co-animée par Jean-Yves Jouannet et le Chevalier de Rinchy, qui permet de faire des performances inédites, des concerts. C'est vraiment sympa, à la fois à écouter et à la fois à être dedans, puisqu'on a fait les deux avec ma copine les années précédentes. On s'est dit, ben, on fait à la fois l'un et l'autre, et ça le fait tout à fait. C'est vraiment très drôle. Ce sont des artistes qui n'ont aucune notion de ce qu'est la radio, mais juste à la technique derrière, bien, il y a Antoine de DJ Breakfast et Kinou qui est là pour gérer le tout. Kinou qui sort de qui se remet physiquement, donc dans la foulée il fait ça avec bien évidemment les moyens de la Fondation Cartier, donc c'est une vraie mise en scène et tout le reste. C'est assez rigolo, ça vaut le coup, il y a des trucs vraiment fun. Ce qui paraît, la première de l'année dernière, ils avaient fini quasiment à poil.
Ouais.
Avec l'alcool, ça non, a mais dû alors, aider.
Ce qui est pas mal, c'est que bon, ben, ça, on couvre une, on couvre une manifestation qui,
oui, oui.
Qui est, on
qui
va
artistique,
dire,
hein.
artistique, qui mmh. est graphique, qui est visuelle, alors qu'on est une radio et qu'on fait que dans l'auditif. Mais
on fait ça depuis 30 ans, mon cher ami.
Jean-Yves Jouannet et le chevalier de Hinchy, ils retransmettent vraiment très très bien les choses, donc ça vaut le coup d'y jeter une petite oreille. Hein,
avec des fois une sacrée parodie justement du ton empesé des émissions de France Culture, etc., qui reprennent en fait ce programme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Radio Éphémère est retransmis en même temps sur France Culture. Donc je veux dire vraiment de ce côté-là. C'est vraiment assez fun, à la fois pour notre radio, à la fois pour nous, mais aussi pour les auditeurs, pour découvrir littéralement un autre style, je vais dire, sur Radio Éphémère. Donc ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que tu me sniffes là, le... T'es pas content de ton son, c'est ça? tu viens le régler. Non mais là, c'est les compresseurs des micros et tout, là je peux rien faire, mon cher. Si tu veux, Duce.
Ouais, mais il va falloir faire quelque chose.
Quatre émissions donc cette année, à la fois ce soir, mais aussi le 30 septembre et le 1er octobre. C'est dans la cour d'honneur de l'école des Beaux-Arts, de 22h30 à 1h du matin, voire plus tard si il le souhaite, et en podcast disponible sur radio-fmr.net. C'est donc dans le cadre du printemps de septembre 2011. Cette année, le thème, c'est sûr, un autre monde. Dans l'agenda de cette semaine, Eric Lhomme, qui est un auteur jeunesse et fantaisiste, viendra dédicacer à la librairie Gilbert Joseph. C'est le 29 septembre à partir de 15h. Samedi 8 octobre, Guillaume Bouzard, qui dessine The Autobiography of Me et qui est aussi illustrateur dans Sofoot et dans Flic Glacial, relome André et Gina, c'est aussi à la librairie Gilbert Joseph. Et j'oublie complètement de signaler qu'à la co-festival à la fête du livre, excusez-moi. Et j'ai oublié d'ailleurs où c'est que ça a lieu. Le premier.
À la Salvetta.
Non, c'est pas à Salvetta.
Si.
Je sais que j'ai complètement oublié. On avait dit depuis des années qu'on irait faire une émission là-bas. Surtout que cette année, eh ben.
À Balma.
Non.
Tu vas tous les faire. Attends.
Ouais, tu vas tous les faire.
Garde.
Voilà, j'ai complètement oublié. Je l'ai pas noté. C'est mea culpa. Je suis désolé. Sachant qu'il y a tous les dessinateurs de Charlie Hebdo, ciné excepté. Je ne sais pas.
Albi
pourquoi.
Alors.
Oui, oui.
Ou à Gaillac.
À Gaillac.
Ah voilà, on y arrivait, tu vois.
J'ai, voilà, c'est à Gaillac. Yes. Donc c'est dimanche de la semaine prochaine, c'est le 1er octobre. Ils seront tous présents. Il n'y a pas que de la bande dessinée, il y a aussi des auteurs du cru, des auteurs locaux.
En fait, tu parles du salon du livre.
Oui, oui.
D'accord, c'était Gaillac, oui.
C'était Gaillac, oui.
J'y vais pas.
À consommer avec modération.
Il y a qui?
Désolé.
Alors, comme ils se font une spécialité d'inviter des auteurs, des blogueurs BD qui où se sont succédés Maliki, Boulet et Melaka, qui c'est qui a cette année?
Ah, bah, j'ai même pas regardé, tu vois. On pourra faire le programme la semaine prochaine. Tu es là la semaine prochaine?
Non.
Non, tu n'es pas là. Non, je vous rassure, le gag était coécrit.
Non, mais c'est bien, on se fait nos plannings en direct, c'est bien.
Voilà, ok. Donc celui-ci, ok.
Du sport, t'as prévu de manger quoi tout à l'heure? Non, pardon.
Je sais pas. Je sais pas encore.
Bonjour, c'est le suppléant week-end sur Radio Antenne. Éphémère. Il est midi et 10 minutes. Et j'ai même pas le temps de céder. Bon, bah, on va peut-être entamer les sorties bande dessinée, je pense. Avec, ma foi, une surprise. Là, Thomas, il a eu dans les mailles. Ah ouais, ok. Et oui, une immense surprise, c'est tout simplement, c'est le retour de deux auteurs qu'on avait reçus sur cette antenne pour donc leur première collaboration commune qui avait été un gros succès.
S'appelait Fraises et Chocolat.
Voilà, à savoir Frédéric Boilet et Aurélia Horita, et je me suis trompé dans l'indication. Le scénario est de Frédéric Boilet et le dessin est d'Aurélia Horita.
Ouais, justement,
c'est coécrit.
Le scénario est coécrit par Frédéric Boilet et Aurélia Horita, et Aurélia Horita fait le dessin, alors que dans Fraises et Chocolat, Aurélia Horita faisait tout, hein.
Oui.
On voyait une apparition de Boilet dedans, puisque c'était autobiographique.
C'est un personnage, c'est autobiographique, voilà. Et, ça s'appelle Vigie des Vosges et c'est sorti aux Impressions Nouvelles. comment je vais le faire, cette chronique? Bon, allez, je vais le faire simple et sans culotte. Allons-y. Vivi est une sauvageonne, une enfant qui vit dans les bois, qui n'a jamais connu ses parents, n'a jamais approché la civilisation et galope toute nue dans les hautes herbes. Elle vivait heureuse jusqu'à ce qu'elle croise des chasseurs. Ces messieurs, armés de leurs fusils et de leurs chiens, organisent une battue pour la traquer. Évidemment capturée, elle est ramenée comme une bête fauve au village. Mais la petite fille, toute dent dehors, n'est pas un animal. Une femme décide de l'adopter pour la ramener à l'humanité. Non, et quand je dis l'humanité, non, c'est une image, c'est pas le journal, c'est...
Ah oui, c'est
elle est ramenée dans sa maison.
C'est très François Truffaut, cette histoire.
C'est quoi comme insulte, François
non,
Truffaut?
L'enfant sauvage de Truffaut.
Il y a un clin d'œil dedans.
D'accord.
Pour Vivi, c'est le premier voyage en voiture. Le premier seuil franchi, le premier repas chaud. Enfin, je veux dire élaboré, quoi, parce que, après, entre nous, moi, l'animal que vous venez tout juste de tuer, quand vous bouffez de suite, bien sûr, il est chaud. Le premier bain, enfin, à peu près, c'est pas évident, d'aller dans la flotte. Et son premier vêtement. Une culotte. Oui, mais voilà. Vivi n'ayant jamais porté de vêtements, elle ne voit pas pourquoi elle doit porter cette chose désagréable, qui la gratte, qui la serre, qui la gêne. C'est indécent de porter des vêtements quand on est une enfant sauvageonne. Ça sera la guerre avec sa bienfaitrice, qui en augure bien d'autres, comme dormir dans un lit, se servir d'une fourchette et retenir son prénom. Vivi. Mais ça sera à l'école où Vivi aura le plus de difficultés à comprendre les autres humains. Elle qui avait toujours vécu nue et qui avait toujours l'habitude de se battre pour survivre. La jungle de la cour de récré va prendre un autre sens avec elle. Pour une fois, le tandem de fraises et chocolat, je ne verrai pas Okinawa et Buzz-moi n'a pas sorti une histoire autobiographique au contenu adulte. Un petit conte pour les enfants. C'est vraiment la grosse surprise de ce côté-là, de la part de ce tandem d'auteurs. C'est une BD bien culottée, mais au personnage central attachant, déraciné, ne comprenant pas cette civilisation qui l'empêche d'être mature, qui l'empêche d'être elle-même. Et en soi, finalement, un drôle de parallèle avec la vie des auteurs eux-mêmes. Il y a quelque chose qu'on fait qu'on les y reconnaît. Aurélia Horita, Frédéric Boilet. Pour le chroniqueur BD que je suis, c'est une torture. Là, immédiatement, présentement, j'en raconte déjà beaucoup trop. Or, il faut bien évidemment laisser le plaisir de la découverte. Au lecteur, bien sûr, mais aussi aux fans de Frédéric Boilet et Aurélia Horita. Et on sait qu'ils sont nombreux parmi nos auditeurs. Le graphisme d'Aurélia Horita convient parfaitement au ton. Et ses croquis me font involontairement penser au petit Nicolas, croqué par Sampé. La quasi-absence de parole, puisque Vivi ne parle pas encore comme les autres humains, est une idée géniale qui permettra l'abord du bouquin au plus petit. Thomas, Vivi des Vosges, du peu que tu l'as consulté.
Eh bien, je l'ai consulté plusieurs fois, puisque je l'ai consulté quand tu es arrivé tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc j'ai regardé le prix, alors...
Fais gaffe parce que si jamais Aurélia nous écoute,
je replace dans le contexte. J'avais vachement aimé.
Frédéric Boilet, il va nous regarder de haut. Hein,
non, j'avais vachement apprécié Fraises et Chocolat. J'avais lu Buzz-moi. J'avais lu. Je ne verrai pas Okinawa non plus. Alors, je comprends bien qu'on ne peut pas faire que des BD un peu érotico-autobiographiques, mais c'est sûr qu'elle change de genre. Après, je viens de dire que je l'ai consulté deux fois. Donc, une première fois quand t'es arrivé, je me suis dit vraiment c'est de l'arnaque parce que payer 16€ un truc sans parole où on dirait, je dis d'apparence, parce que je sais que la construction du BD est autrement plus compliquée que ça, mais on dirait vraiment des croquis que tu as mis sur une page avec beaucoup de blanc et on dirait que bon après ça fait un peu pseudo une histoire. Après, évidemment, je l'ai reconsulté pendant que tu faisais ta chronique. Là, je vois que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, que c'est un parti pris graphique, qu'on voit vraiment une vraie patte. Parce qu'il y a beaucoup de BD qu'on chronique ici qui sont vraiment tièdes et qu'il n'y a pas de patte. Là, on voit vraiment que c'est l'univers de Aurélia Horita, il n'y a pas à tortiller. Après, moi, personnellement, mettre 16€ dans une BD comme ça que tu lis en 10 minutes, j'ai un peu de mal, mais je reconnais que c'est singulier et que ça vaut le détour. Voilà. Après,
personnellement, moi, je me suis plongé avec plaisir. Alors, je te laisse imaginer qu'il y en a une sous mon toit qui m'a dit. Il est génial.
Oui, qui t'a dit file-moi la BD à lire en premier, sinon je te fais pas à manger.
À peu près ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable à lire. C'est surprenant, effectivement, de la part des auteurs. Et après, ben moi, je trouve que pour les enfants, effectivement, puisqu'il y a un gros avertissement quand même au dos qui dit attention, ce bouquin n'est pas pour les adultes, et n'est pas recommandé pour les adultes. Effectivement, moi, je trouve que pour la bande dessinée jeunesse, il y a toujours, tu sais, le moment, c'est est-ce qu'on parle de ça, est-ce qu'on parle pas de ça, est-ce qu'on parle de la sexualité, est-ce qu'on parle de la mort, est-ce qu'on parle, et puis en fait, on se rend compte que justement, ceux qui vont au-delà de ces a priori font quelque chose suffisamment fort pour se dire, ben en fait. Ils en parlent le mieux qu'il en soit. Et là, c'est exactement la même chose vis-à-vis, je vais dire, ben, de l'éducation et de la décence. Et en soi, c'est un ouvrage formidable, à mon sens, parce que justement, ils vont au-delà, parce que on connaît le passif des auteurs entre guillemets. Et d'un autre côté, ben, quand on lit cette œuvre, on se dit, ben ouais, ben finalement, c'est franchement le bouquin qu'il faudrait pour les enfants une fois de plus.
Après, c'est vrai que moi, je m'étais posé la question pourquoi ils avaient fait un tirage de cette façon aussi cartonné, alors que c'est quand même une BD qui a d'apparence s'apparente à la BD d'auteur, donc pourquoi ils l'ont pas fait dans un papier un peu plus granuleux pour faire un peu plus carnet de recherche, et finalement c'est complètement adapté puisque c'est si ça s'adresse à un public plus jeune, ça c'est sûr que il faut que ce soit costaud, et puis en plus ça donne une espèce de cachet où ça trompe pas sur la marchandise, c'est vraiment pour un public plus jeune, alors qu'un truc plus cartonné, plus collection shampoing, on va dire, de Delcourt,
ouais.
ça aurait berné le public sur ce qui était vraiment la bande dessinée,
sur l'intention, ouais. Ouais, d'accord, en tout cas, que justement, c'est vraiment un truc pour enfants. Du sport, là, il est en train de découvrir, il s'est enlevé les lunettes.
Il vient de le lire, d'ailleurs.
Il s'est enlevé les lunettes, d'ailleurs, ça, j'ai jamais vu faire des émissions comme ça.
Alors, un verdict, premier verdict sur...
Le scénario, c'est pas compliqué, parce que c'est l'enfant sauvage adapté.
Oui, c'est ce qu'on disait.
Voilà. Okay.
D'ailleurs, il y a des allusions, puisque ça s'appelle Victorine. Ah, pardon, il fallait pas le dire.
D'accord, ok, ouais, voilà, bon.
On passe.
Ok, j'ai rien dit.
Bon, d'accord, je vais te remonter le moral, 67 à 3.
Pas vrai.
Ah non, pardon, excuse-moi, c'est Angleterre-Roumanie. 37 à 17.
Oh, on a marqué un autre essai. C'est pas mal. C'est vrai que passer de Vivi des Vosges à... c'est l'an de France, c'est pas.
Et la encore, même chose. Là, tu vois, je dois passer à un shoujo, c'est quand même pas du tout évident. Je suis sûr que s'ils nous écoutent, ça fera énormément rire Frédéric Boilet et Aurélie Horita. J'ai oublié de dire que Vivi des Vosges, c'est chez Les Impressions Nouvelles. Voilà.
Si, tu l'as déjà dit.
En début, j'ai pas désannoncé. Rigolo. Akuma to Love Song, c'est aux éditions Kana et c'est de Miyoshi Tomori.
Akuma Matata.
Tu sors.
Tout de suite.
Maria Kawai arrive dans son nouveau lycée en cours d'année, le lycée Totsuka, un établissement public plutôt dans la moyenne au classement des meilleurs lycées de la région de Tokyo, qu'on imagine. Mais pourquoi arrive-t-elle ainsi en milieu d'année? A-t-elle déménagé? Non. Elle a été virée de l'école Saint-Catholia, un prestigieux lycée privé catholique. En fait, Maria Kawai est victime de son don. Elle voit clair dans le cœur des gens, surtout les choses négatives, et le dit avec détachement et sans embâge. Aucune pincette, je vais te le dire en face. Évidemment, elle se met tout le monde instantanément à dos. Ça, plus son passif dans son ancien lycée, il n'y a pas de quoi la rendre particulièrement populaire. Et évidemment, les autres filles de sa classe vont comploter contre elle. Ragot, encre versée dans les chaussures, petite culotte exposée en public. Non, Vivi, non, sage. L'arme qu'elles vont utiliser contre Maria est Nipachi, une fille toujours souriante. Une autre ancienne élève de la très chic Sainte Catholia. La genre, toujours sympa. Mais elle va se révéler une camarade très dangereuse. Et puis, évidemment, il y a les profs qui s'inquiètent de la dégradation de l'ambiance. Et comme bien évidemment, ils ne comprennent rien. Ah ben ouais, c'est des adultes. Et c'est encore une fois la pauvre Maria qui va s'en prendre sur le citron. À ce stade, vous me croyez si l'auteur s'est senti obligé d'expressément la comparer à Cendrillon jusqu'à mettre expressément les images dedans? Pauvre Maria Kawai. Ah oui, donc son nom c'est Kawai, pas Kawaii avec au moins deux i et mais au moins de 243 parce que quand même faut pas exagérer. Kawaii! Ce qui signifierait mignon. Et peut-être lui manque-t-il justement ce i pour qu'elle soit considérée comme adorable. Heureusement, deux garçons ne se soucient pas de ce genre de détails et tentent de faire ami-ami avec elle. Yusuke, un grand blond décoloré, tout gentil et naïf, et Meguro, un grand brun ténébreux. Yusuke, par exemple, lui a recommandé d'arrêter de faire une tronche de méduse et de pencher légèrement la tête sur le côté quand elle dit des choses gentilles, comme les Didi, pour accentuer son intention de sympathie et du coup de faire moins hautaine. Bah, avec le franc-parler de Maria, ça donne un curieux mélange qui fout en l'air toute intention. Sa cote de popularité ne bouge d'un pas d'un poil, bah oui, n'est pas Seguela qui veut. En clair, si Maria Kawai ne devient pas très vite chef d'une section de Yakuza, elle n'aura jamais assez de garde du corps pour la protéger de ses ennemis. Et de ce côté-là, elle me fait immédiatement penser à Daria. Je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé spin-off de Beavis and Butthead. C'est exactement la même ambiance. C'est-à-dire, bah, elle est complètement à côté de cela. Elle est pas dedans, quoi, en clair. Alors, chroniquer un shoujo manga sur des intrigues de sentiments, je rappelle que shoujo veut dire fille, ce qui insinue bien quand même le public à qui c'est destiné.
Personnellement, je viens de feuilleter tes deux tomes que tu chroniques et ça m'a fait l'effet d'un espèce de soda trop sucré venu de je ne sais où. J'ai dit,
ça tombe bien parce qu'elle aime trop le sucré.
Ah d'accord. J'ai même chopé le diabète. Ah
oh non, non, justement, c'est très drôle. Enfin bon, un shoujo manga, forcément, c'est des intrigues de sentiments, des relations amoureuses non avouées. Moi, bon, je l'ai déjà fait en de moultes occasions quand même de chroniquer ce type de BD. Et oui, j'ai parfois pris un peu de plaisir.
Oh non.
Mais, ah, non, mais je déteste les soap-opéras. Hein. Un truc, je peux pas. Pourtant, ben là, j'ai eu un grand moment d'hésitation. Bon, en fait, oui, j'ai eu très peur. Et c'est à cause de l'autocollant. Coup de cœur, Star Club, le magazine des numéros 1. Non, le rire, je le faisais pas. Je faisais les voix off sur les pubs de ce genre de magazine.
Ah, pardon.
Je faisais pas les rires. Bon, après, c'est les canons habituels quant à l'usage de clichés scénaristiques. Ça, vous l'aviez deviné dans ma chronique. Comme graphique, grands yeux brillants et décors opportunément remplacés par des effets de trame façon lens glare, sans compter les illustrations intermédiaires avec de la dentelle.
C'est pas lens glare, c'est lens flare. Lens glare, c'est autre chose.
Ouais, mais c'est... non, non, mais c'est vraiment baveux, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment baveux. Hein. Hop, lens flare. Ok, je le rajoute. Je savais que j'aurais pas dû l'écrire à 11h45.
Mais si tu dis c'est baveux et collant, peut-être que la glaire, ça s'apparente plus à. Pardon.
Ouais, non, ça, j'avais quand même pas insisté. Enfin bon.
Lens glare, je retiens.
Mais le plus fun, c'est de tenter de traduire le titre. Akuma to love song. Alors, c'est démons et chansons d'amour. Entre nous, dans quoi naissent les gothiques Lolita, hein, dans les épines de rosier. Akuma to Love Song, Miyoshi Tomori, c'est aux éditions Kana, excusez-moi, c'est la fatigue. Enfin, ça s'écrit différemment en japonais, Kana et tout le reste. Enfin bon, bref, c'est assez rigolo en soi, sans franchement être absolument drôle. Et des fois, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Heureusement, maintenant, on va parler de la bande dessinée pour garçons. Pour garçons, excusez-moi, pour Gaston, pour garçons. On va tisser notre toile, ma foi.
Le score a évolué, en fait.
Je sais pas, du sport, il est allé sur le site 9e art 2.0, 9e art.citebd.org, puisqu'il y a un dossier sur la BD Girly Exprès, donc il voulait en savoir plus sur la bande dessinée des filles, les genres, les séries et tout le reste. On mettra le lien d'ailleurs là-dessus.
Va sur l'équipe.fr au lieu de meubler, tu vas voir, ça va être rapide.
Non, c'est sûr, 9emart.ctbd.org. Donc je disais, le score est c'est fini apparemment. Ah oui, 37-17. Bon, ok.
Ouais, c'est pas mal.
On passe peut-être maintenant à un teaser. Je disais le truc pour garçon.
Oui,
je te tendais la perche.
Teaser rouge et bleu.
Tu sais?
Ah oui, 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 oui.
New York.
New York. Ah bah oui, il en sera encore question d'ailleurs dans la rubrique télé. Avec le Spider-Man numéro 140, donc le numéro de septembre qui est paru. Vous savez que ça se goupille assez mal pour Spider-Man en ce moment. Hein, qui dans le dernier numéro avait fort affaire avec Kane, mais en fait... avec Kraven, pardon, et avec toute la dynastie de Kraven d'ailleurs, parce que il faut savoir que Kraven, le chasseur originel, est mort, mais toute sa descendance réussit à le faire revenir d'entre les morts, enfin bon, tout un truc et tout quoi, et il se fout même sur la gueule avec justement ceux qui l'ont fait revenir, parce que il est pas d'accord avec la façon qu'ils ont de se venger de Spider-Man, tu vois. En fait, ils ont dégommé quelqu'un qui a pris le costume de Spider-Man, mais c'est pas Spider-Man, c'est Kane, d'accord? Pour se racheter de toutes les conneries qu'il a faites et tout, il s'est dit bon, ok et tout, quoi. Et puis bon, mais il se fait dégommer. Et on croit à un moment que c'est Spider-Man qui est mort, mais c'est pas Spider-Man qui est mort, ok? Donc de ce côté-là, pour l'instant, tout va bien. Et là, on se dit bon, jusqu'où ils vont pouvoir aller au niveau du retour des anciens super-héros qu'on avait déjà vus et tout, depuis qu'il y a ce Brand New Day. Depuis que Spider-Man, il a plus ou moins les ailes libres, on va dire, non, ou les pattes libres, puisque il est plus marié avec Mary Jane, plus rien, il y a plus rien de toute ancienne vie qu'il y avait. Et on se dit bon, ok, ça continue comme ça. Alors ils ont fait revenir tous les anciens monstres qu'on avait déjà vus, tous les anciens super vilains qu'on a déjà vus, Electro, le lézard, tout et n'importe quoi, l'homme sable, tous, ils sont tous pratiquement passé déjà pour le clone, tous quoi. Et là on arrive peut-être un petit peu à bout de course. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Spider-Man? Et là ici en France, on en est à l'instant crucial, première partie, deuxième partie donc le mois prochain, et qui se résume en fait, alors en plus faut savoir que au niveau scénariste, c'est Joe Quesada qui a pris les rênes. Joe, ouais, Quesada quand même, l'ancien rédacteur en chef de la partie comics de Marvel, qui maintenant s'occupe plutôt des relations avec les studios Disney, qui a un meilleur poste donc, c'est lui qui est patron, je crois, du studio Marvel à l'intérieur de Disney, me semble-t-il. Mais là, il reprend le crayon pour refaire un petit scénario de Daryl Fagot. Et en fait, ça se résume tout simplement à un tête-à-tête, à un face-à-face entre Mary Jane Watson et... Parker, mais après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire sachant que dans le Brand New Day, il faut savoir que la tante May meurt parce que Spider-Man a dévoilé son identité, on sait que c'est Peter Parker, donc on s'est attaqué à tante May et tout ça, mais pour la faire revenir à la vie, il décide il va voir tous ses potes, Tony Stark, Doctor Strange. Bon, c'est un pas moyen de la faire revenir à la vie. Tous disent non, on peut pas, tant pis et tout. Et décide de passer un pacte avec le diable, avec Mephisto. Et Mephisto, en échange, lui dit on supprime le mariage avec Mary Jane Watson, qui avait déjà eu lieu, bien sûr. Et on repart comme avant. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème, Tante May pourra continuer à vivre. Ok, et c'est le départ justement de ce Brand New Day qu'on a vu depuis le numéro 100. De la version française qui sort en kiosque. Et ce qui se passe, c'est que on arrive à un moment où il y a un stand-by, parce qu'on sait que quand Spider-Man a passé son pacte avec Mephisto, Mary Jane Watson était avec elle, et est intervenu en la faveur de Spider-Man auprès de Mephisto et lui a promis quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Eh bien, c'est dévoilé. C'est dévoilé dans ce numéro. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, dans ce tête-à-tête qu'il y a entre Mary Jane et Peter Parker, dans l'appart de Peter Parker, enfin, dans, qui, où il est colocataire avec Michel Gonzalez, mais qui n'est pas là pour le moment, eh bien, il se passe pas grand-chose. Ils se font à boire, ils se font à bouffer. Tu vois, ça se résume à cette image pleine page. Ah, ouais, en fait, tu vois, ça se résume à ça.
Ouais, il glande.
En fait. Et pour
illustrer... ça me rappelle une autre illustration qui avait été utilisée pour Spider-Man au début des années 80.
Ouais, ouais, non, mais oui, attends.
Avec la bouteille d'alcool sur
le lit. Parce que, et pour illustrer les flashbacks qui ont amené justement à cette situation dans laquelle ils sont, oui, j'ai envie de redevenir ami, nanana, tout le truc, les événements ont fait qu'on a dû se séparer, ce n'était pas notre destin, nanana, enfin bon, y a tout qui passe, hein, et même, donc pour illustrer ça, eh bien, on utilise carrément des anciennes,
ah, excellent.
des anciennes histoires, donc avec
l'ancien graphisme
qui est intégré dans l'histoire et qui fait partie du flashback de ce que se raconte Peter Parker et Mary Jane.
Ah, c'est sympa. Alors ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, c'est parce que eh bien ça explique un petit peu mieux sous un jour nouveau quelle est la teneur des sentiments de Peter Parker par rapport à Mary Jane, par rapport aux autres personnages principaux qu'on connaît dans Spider-Man, les sentiments également de Mary Jane par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son mariage, par rapport à l'aventure que Peter Parker a eu avec Gwen Stacy. Elle s'est dit, ouais, je suis que la deuxième, parce que si elle n'était pas morte, Gwen Stacy, ben, il serait encore avec elle, il serait marié avec elle. Enfin, tu vois un petit peu? Alors ça fait un petit peu soap. Hein, comme ça fait un peu plus belle la vie à la limite dans les dialogues qui sont vraiment des dialogues de la vie de tous les jours de deux personnes, d'un couple qui est en train de s'interroger sur lui-même, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il pourrait redevenir, voilà, tout simplement, et illustré par les aventures de Peter Parker, bien sûr, des aventures qu'on connaît. Mais seulement, sauf que, à la fin du premier épisode, à la fin de cet épisode, eh bien, on en arrive de nouveau à un flashback. Et là, c'est là que c'est le cliffhanger est assez pas mal et assez tentateur de toute façon. On en arrive à un flashback où Peter Parker est de nouveau dans la chambre de l'hôpital. Tante May vient de se faire, donc on est dans un flashback, vient de se faire descendre, est à l'hôpital et pendant qu'ils sont là avec Mary Jane, eh bien on entend le bip 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 de la machine qu'on entend toujours dans les hostos et tout. En fait, on l'entend jamais dans les vrais hostos, mais bon, ouais. À la télé, hein, dans toutes les séries médicales, t'entends toujours le bip bip, tu sais, le truc
avec
du
électrocardiogramme, ouais.
Voilà, non, c'est le cœur qu'on entend.
Oui.
Et clac, la machine s'arrête, bip, plus rien. Oh, tant de mecs qui meurent et tout, quoi.
Qui remeurt, donc.
Ouais, elle meurt, mais c'est un flashback. On est d'accord, dans le flashback.
Oui,
elle
d'accord.
meurt.
D'accord.
Elle meurt, là, quoi. Donc, c'est au moment où elle meurt, justement, quoi. Et là, ben, à la fin, les tout-bis ont dit, non, c'est bon, on a tout essayé, la machine, tu sais, elle a provoqué des chocs et tout. Ça marche pas. Et à la fin, après, bon, ben, Peter Parker désespéré qui dit, allez, vas-y, j'y vais quand même, je te fais un massage cardiaque. Et hop, ça repart et c'est terminé. On attend la prochaine au mois d'octobre.
Ah ben, Mephisto a donc tenu sa promesse.
Mais on ne sait pas à quoi c'est dû le fait que Tante May. Est-ce que c'est simplement l'action physique de Peter Parker qui lui fait le massage cardiaque qui suffit? On ne le sait pas pour l'instant.
Ou est-ce que le corps de Tante May a peut-être eu des trucs en plus, alors peut-être?
Ah, peut-être, hein, on ne sait pas. Bah, suite dans le prochain numéro. Donc.
Et tu vas voir que Tante May va revenir en costume, en super-héroïne.
Ouais, non, parce que c'est assez important, parce qu'il faut savoir qu'après, dans le World New Day et tout, bon, Tante May qui ne meurt pas et tout, bon, elle se marie même avec le père de Jonah Jameson. Donc, ce qui fait que, ça je vous l'avais déjà raconté, Peter Parker est officiellement le demi-frère de Jonah Jameson, donc, qui est maire de New York. Enfin bon, ok, quoi. Alors donc, c'est pour ça que c'est assez important, là. Parce que bon, on se dit que, éditorialement, il y a peut-être des choses qui vont se passer au niveau du statut de Spider-Man. Donc, histoire à suivre le mois prochain, donc, dans le Spider-Man en kiosque.
Un peu autre chose?
Allez.
Mais si justement on reprenait pied avec la réalité?
Et oui, tout à fait, on va peut-être
mon
parler...
cher Grishka, est-ce que c'est possible?
Mais oui, Igor, enfin
tout à fait, Igor.
Tout à fait, Igor, puisque nous allons parler cette fois-ci de des concepts abracadabrantesques de nos films d'action préférés, nos œuvres de science-fiction qui ont bercé nos enfants, notre enfance, et les séries télé qu'on ne manque jamais à la télévision. Et il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle Tu mourras moins bête. Petit astérisque, si tu retournes le bouquin, il y a marqué mais tu mourras quand même. Le tome 1 s'appelle La science, c'est pas du cinéma, et c'est scénarisé et dessiné par Marion Montaigne. D'après son blog, c'est édité chez Ankama. Alors, vous êtes du genre à chipoter à chaque paradoxe temporel dans la série Terminator? Vous vous demandez où sont les piles d'un sabre laser? Vous avez soutenu dans la cour de récré que la résurrection des dinosaures était du pipeau? Et bien justement, la prof Moustache, allusion à Tezuka, démontre une par une quelques mythologies du grand et du petit écran en se basant sur la logique et des calculs mathématiques, sans oublier d'y faire intervenir Derrick, Winnie l'ourson ou encore Johnny Hallyday. Alors, c'est tiré du blog qui s'appelle tumouramoinbet.blogspot.com et Marion Montaigne a donc demandé à quelques dessinateurs de bandes dessinées et pas des moindres.
Il y a du beau monde, hein.
Boulet, Bastien Vives, Erwan Surcouf, Liban, Florent Maudou, Manu Larsonnet, pour en citer que quelques-uns, de lui faire des petites cartes postales imaginaires envoyées par des fans qui demandent à Professeur Moustache des questions comme « Est-ce que je vais souffrir si je me jette du Golden Gate? Dans quelle partie du corps puis-je recevoir une balle sans mourir? Ou la téléportation est-elle bientôt au point? Ou encore, j'ai beaucoup appris en regardant Grey's Anatomy, ai-je le niveau pour devenir médecin ?» Et donc donc Marion Montaigne prouve par A plus B et de façon très 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 rationnelle mais non sans humour, elle montre si effectivement on peut devenir docteur en regardant Grey's Anatomy, si le sabre laser de Dark Vador est fait en laser, pourquoi est-ce qu'il s'arrête à un moment donné? Puisque le laser ne s'arrête pas.
Bah non.
Alors comment est-ce qu'on peut faire des sabres à partir de laser? Ou comment se décompose un corps? Avec moult explications via les différents types d'asticots. Ça c'est vraiment, il y a des passages très très dégueux. Elle montre aussi.
De toute façon, c'est un dessin ligne crade, donc.
Oui, bon, c'est très crade.
C'est assumé.
C'est à la Riser un peu. Les personnages sont à peine esquissés. Il y a des taches d'aquarelle. Elle nous montre aussi que les salles d'autopsie des experts, d'NCIS et tout, c'est toujours des spots avec l'autre partie du labo qui est dans la pénombre et dit eh ben non, en fait, les experts, au lieu de dire d'aller sur des scènes de crime, je me suis acheté des nouvelles Ray-Ban et tout, changé de voiture, ou alors Horatio, que penses-tu de cette nouvelle race de tueurs et tout? Eh bien, en fait, au lieu d'être en veste Armani et tout, eh bien, il devrait être en costume, en espèce de costume bibendum, tout blanc, on les verrait même pas, ou les digressions sur les vies sentimentales dans Grey's Anatomy, eh bien, justement, en fait, non, les docteurs, en vrai, ils ont des vies de merde. Et donc, en fait, c'est super rigolo, puisque ça démontre plein de concepts, des paradoxes temporels, vous avez du chéri, j'y rétrécis les gosses, elle t'explique pourquoi on peut pas rétrécir, pourquoi? Eh bien parce que le poids des organes nous ferait nous écrouler sur nous-mêmes, ou alors on aurait
pas assez d'organes pour vivre,
l'équivalent de 700 kilos qui tiendrait sur un tibia, donc forcément elle montre que le corps il devrait se disloquer, alors avec plein de sang partout, c'est rigolo. Par exemple aussi elle démontre comment un sniper il peut pas tirer une balle comme ça, ou on peut pas prendre une Kalachnikov dans chaque main. Voilà, donc il y a plein d'exemples avec des Rambo, il y a du Derrick dépressif, on a Horatio Kane qui fait une apparition dans tous les exemples.
Énorme. D'ailleurs très très bien imité, d'ailleurs c'est facile, hein, un rouquin blanchâtre sous le soleil et qui penche la tête.
Qui penche la tête avec des lunettes de soleil.
T'as juste besoin des Ray-Ban et tout le monde y croit.
Alors par contre, l'effet pervers de cet album, c'est que ça te démonte tous les concepts que tu adores dans les films. Donc évidemment, ça va influencer nos prochains visionnages de ces œuvres. En plus, souvent, ce sont des œuvres cultes. Alors soyez prévenus, le rêve en prend un sacré coup par derrière. Donc, si vous voulez continuer à rêver avec des sabres laser, faut pas lire ça, hein. Voilà, par exemple. Mais c'est super tordant. Tu mourras moins bête, tome 1, La science, c'est pas du cinéma, par Marion Montaigne, chez Ankama. Et c'est vraiment, vraiment des opinions, comme dirait un membre de cette équipe.
C'est assez épais en plus comme bouquin, on en a pour son argent.
Ah oui, alors là,
c'est des heures de lecture puisque c'est du texte, hein, faut pas oublier.
Très très bien écrit, t'as plein de blagues partout, elle met en scène aussi des microbes, c'est une version complètement gore, crade et dégueu et déjantée de Il est une fois la vie en fait.
Ouais. OK. Je propose que l'on passe dans une simulation informatique, à savoir Matrix. Alors, c'est la scène où, du shootage à l'entrée de l'immeuble. Mais dans 5, 4, 3. Donc la musique, évidemment, si je me trompe, c'est Spybreak de Propeller Heads, donc qui a été repris par Matt Mulholland.com, et on mettra bien évidemment le lien complet sur le site de l'émission. C'est parce que c'est un Néo-Zélandais que les Néo-Zélandais nous ont foutu la pâtée, et là on peut dire qu'il en a foutu une bonne. C'est le Néo-Zélandais le plus suivi sur YouTube devant un réalisateur, hein.
Ce réalisateur barbu qui aurait fait Le Seigneur des Anneaux.
Exactement. Et ben lui, il a explosé. Il fait d'autres gags à côté. Il fait des gags pas forcément musicaux et trucs comme ça. Il fait de la scène. Sauf qu'il fait ce genre de délire. Il a fait une reprise qui a hurlé de rire le générique du Prince de Bel-Air comme ça, uniquement à la bouche en multitrack. Le générique de Pokémon. Et il a pris trois scènes de film. Il dit trouvez-moi une scène et je vous la refais à la bouche si c'est une scène qui pour vous est mythique sur la mise en son et tout. C'est là où on se rend compte quand même l'incroyable écriture de The Matrix. Et il a repris une scène du premier film de Star Wars.
Episode 1.
Voilà, et quand on l'écoute, c'est là où on se rend compte combien ce film est bousique, puisque musicalement rien ne marche, l'ambiance n'y est pas, etc. Alors qu'il ne fait que reprendre exactement la partoche au sample près, et là-dessus, ben, il est assez extraordinaire. Matt Mulholland, je vous conseille de le découvrir, parce que franchement, de ce côté-là, ben ouais.
Après, peut-être que
il m'a foutu la pâtée quoi quand je l'ai écouté. Hein.
Peut-être aussi qu'une musique orchestrale se prête moins qu'une musique électro.
Ah oui, non, mais c'est clair que les Propeller Heads forcément derrière. Oui, bon, ok. On est bien d'accord. Ça envoie largement du pâté. Je crois qu'il est temps de lancer. Excuse-moi.
Eh oui,
c'est du HK si,
ben oui.
Si je me trompe.
À l'aise. Allez, PPT.
Ouais, non, parce qu'il faut que je prépare la suite après, parce que je crois qu'il va avoir une emmerde quand on va le lancer. Bon, tant pis, allons-y. On va y aller sec, comme ça. Zou, tranquille.
You are on the low.
Chan, Choyun Fat,
et aujourd'hui, science feutrée.
Oui. Soft. Nous éteignons les lumières.
Non, pas la rouge, on peut pas.
Ah mince. Bon,
bah, mais ça le tombe reste, bien, alors. C'est de la bonne couleur.
Ah ouais, on va se retrouver dans du rouge. Avec aujourd'hui.
Je crois qu'on va se prendre un carton rouge, oui.
La chronique d'un film érotique.
Ouais.
Qui s'appelle Sex and Zen 3D Extreme Ecstasy. Ça, c'est du titre. Un film de Christopherson avec Hiro Ayama, Lenny Lan, Saori Hara et Tony Ho. Qui est sorti à Hong Kong il n'y a pas tellement de temps que ça, quelques mois. Alors, si tu veux bien, on va laisser un petit peu la musique pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, ça pousse.
Je comprends pas, on a toujours pas d'insultes. Pourtant on est suivi, hein. On est très écouté en haut lieu, donc je comprends pas bon, ce qui se passe.
Tu arrêtes Radio Booster là.
Bon, on y va. Donc,
allez, passons au préliminaire. Alors.
Oh.
Alors, Wei Yongcheng est un jeune noble fraîchement marié à la belle Tie Yuxiang. Mais le jeune homme se découvre éjaculateur précoce et désavantagé par la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Pour acquérir une virilité, il part faire copain-copain avec le redoutable prince Ning, un despote débauché qui va lui révéler ses secrets et lui prêter occasionnellement quelques courtisanes.
Merde ! Putain, non, désolé, hein. Je savais qu'on allait se prendre des emmerdes, vas-y.
Mais cette quête de la virilité ne va pas se faire sans difficulté, mais oui. Ne déflorons pas l'intrigue. Alors, il s'agit d'un remake de la trilogie Sex and Zen de Michael Mack, réalisé dans les années 90 à Hong Kong. Du sport, peut-être, l'as-tu vu ou as-tu vu un épisode de cette trilogie?
Non.
Bon,
que je me souvienne.
Tu sais, à l'époque, les salles obscures, quand il y en avait des petites, pas très grandes, tout plein en ville. Le Rex, le.
Oui, mais tu sais, les films de Hong Kong, non.
Ouais, ils passaient pas au cinéma, ouais.
Non.
Alors. Ou alors remonter.
Il faut savoir que l'actrice Shuki a débuté dans l'épisode 2 de Sex and Zen, la première trilogie. Shuki qu'on a vu évidemment dans Millennium Mambo chez Xiao Xian et qui a aussi été dans Le Transporteur, je crois que c'est le 1. Le 1,
ah
oui.
Ouais, c'est la star.
Ah oui, tu viens de le regarder sur Google.
C'est non, c'est la star.
Oui, oui, ah oui, c'est la star. Shuki, elle est très connue en Asie, oui. Alors... c'est un film. Alors, ce nouveau film Sex and Zen 3D est un remake du premier film Sex and Zen paru dans les années 90. Et c'est un film donc en costume hongkongais dans les règles de l'art avec des sabres, des belles étoffes en soie. Bon, cette fois-ci, elle s'enlève très très vite. Mais bon, au lieu de bouger dans le vent, mais c'est vrai, on est dans le film de genre par excellence. Alors après, on a pas mal d'éléments qui font référence à ce genre-là. Donc on a des poignards volants, on a même une allusion à Kill Bill, qui est très très drôle d'ailleurs, qui est très bien placée, puisque le héros qui vient d'acquérir un nouveau membre...
Oh non,
en fait, commence à frimer dans les couloirs du palais de plaisir du prince, et donc il adresse plein de clins d'œil aux nanas et tout, qui se pâme devant son nouvel attribut, et puis c'est vraiment sur la musique tin 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 tin. Tu vois, bon, de Kill Bill. Bon, elle a été remixée, mais tu la reconnais. De toute façon, c'est très très drôle. Il a une tenue très dorée, d'ailleurs. Voilà. Il s'est fait greffer un membre d'origine animal, donc je vous laisse imaginer de quel animal il s'agit.
Cheval, mammouth.
Voilà, tu y es. Bon, on a une tripotée de demoiselles toutes plus magnifiques les unes que les autres. Alors, comme dirait du sport, que du naturel.
C'est appréciable. On revient au bio.
Et elles sont vraiment très très belles. On a de l'actrice semi-japono-chinoise. On a de l'actrice chinoise issue du cinéma de catégorie 3, puisque c'est un film de catégorie 3. Catégorie 3, on rappelle ce que c'est. Donc, ce sont des films trop violents pour être adressés à tout public ou comportant des scènes hautes.
sachant ce que peuvent faire les Hongkongais en matière de violence, faut y aller assez
ah
ardent,
ouais,
faut aller
loin. Il voilà. suffit que ça soit dénudé en dessous du pubis de suite.
Alors là, il y a
c'est trop violent.
Là, il y a des membres qui sont pixelisés. Il y a des carrés. Donc voilà, ils ont pas pu avec les tournages. Ça, on va dire que les va-et-vient se font tellement rapidement, ils ont pas pu tout contrôler au niveau du tournage. Donc ils ont été obligés de pixeliser ensuite.
Pixeliser. Je rappelle que le film est en 3D.
Oui, oui.
Donc la mosaïque aussi est en relief. Alors.
Non, moi j'ai pas pu le voir avec les lunettes 3D. Hein, mais bon, on va dire que la technologie 3D n'apporte pas grand-chose au niveau des ébats. Voilà, si c'est ta question.
Je me suis dit pour une fois qu'on verrait bien l'impression de profondeur de.
Donc là tu es dans du le hentai là. Le hentai là tu as des caméras embarquées sur le membre. Là on peut pas, c'est du live quand même.
D'accord.
Au risque de te décevoir. Sinon on a aussi un personnage de transsexuel qui est énorme. Oui, il a un membre énorme. Il a un membre énorme aussi. On pense que c'est une déco, mais on voit que c'est un transsexuel. Bon, on est dans la féerie, hein. Donc, c'est vraiment du gâchis parce que l'actrice est magnifique. Sauf que, il y a quand même une scène de drague où elle drague le héros avant qu'il sache que c'est un homme. Alors, tout le monde, il faut savoir aussi que c'est le jeu d'acteur est hongkongais, donc c'est très maniéré et tout. Alors, le héros, il comprend pas pourquoi tout le monde se fout de sa gueule. C'est tout le monde est fait. Et après, tu t'aperçois que, effectivement, que c'est pas ce qu'ils croyaient. On a des scènes qui.
Eh merde!
On a des scènes vraiment qui sortent de l'ordinaire. On a, on a un mouvement, une scène de coucherie en pleine suspension au bout d'une chaîne pour que le prince Ying montre toute l'étendue de sa virilité, en suspension. Donc, on a le viol d'un moine bouddhiste par une nymphomane. On a, très sympathique d'ailleurs, un lancer de poignard.
C'est le moine bouddhiste?
Eh oui. Donc, évidemment, il est en train de réciter des sutras pour éviter de réagir, par rapport aux avances de la nana. Bon. Ça marche pas, forcément. On a un lanceur.
Ah, tu ne connais pas la puissance de mes hormones.
Voilà. On a un lanceur de poignard aux muscles saillants, le meurtre d'une courtisane par va-et-vient compulsif. Bon, on va s'arrêter.
Il y a quand même du scénario, quoi.
Ah, il y a du scénario. C'est vrai que c'est un.
Par rapport à nos critères d'occidentaux, Gonzo ou soft érotique à histoire?
Voilà,
style années 80.
C'est plus style années 80, film érotique à histoire. Il faut savoir que c'est de l'adaptation d'un livre à la base.
Un prétexte culturel, on est tranquille.
Tout à fait.
Parce que là, les deux coups de fil, d'accord, ok. Bon.
Voilà. C'est un prétexte culturel.
C'est pas un prétexte, c'est une adaptation littérale.
Voilà. Alors c'est un film érotique où rien n'est montré, on a que des paires de nichons, aussi on a des postérieurs nus, mais c'est tout. On a rien d'autre. C'est des nanas surtout qui sont dévêtues. On a le dernier tiers du film. Alors c'est un film déjà qui est pas dénué d'humour puisque c'est très humoristique, très décalé avec plein de comiques cantonnés à foison. Et à la fin, et le film sombre vraiment dans le gore, mais vraiment le violent. C'est-à-dire, moi j'avais vu le film de Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, qui avait fait Sad. On est vraiment dans ce genre de film, c'est-à-dire on a du sang, on a des instruments de torture qui vont pas avec le dos de la cuillère.
Qui m'appelle ?
Et beaucoup de torture en tout genre.
Maman ? Ah mince.
Tout ça pour dire que la morale de l'histoire, c'est que il faut pas copuler. Parce que si tu copules, ça veut dire que t'es puni. Et tous ceux qui ont commis le péché de la chair sont punis tous à la fin du film. Donc la morale de l'histoire est très très chaste. Bon, ça rappelle un peu le Halloween de
Carpenter. Tu vois, maman, c'est chaste.
C'est très chaste. Ça rappelle un peu la morale du Halloween de Carpenter. Souvenez-vous, il y avait Jamie Lee Curtis, c'était la seule à pas avoir couché qui s'en sortait. Donc là c'est pareil. On apprend à la fin que le meilleur moyen de garder sa nana, c'est de lui imposer une ceinture de chasteté. Ah, c'est pas mal. C'est gratiné. Voilà. Donc vous avez 2 heures de film, vous avez de la coucherie en veux-tu en voilà, des beaux costumes, des belles nanas, des décors très très cheap, très numériques, avec du matte painting à foison aussi. Bon voilà, Sex and Zen 3D, Extreme Ecstasy, c'est...
Matte painting, oula, en 3D je demande à voir parce que... mate, c'est plat.
Mate painting, voilà, c'est le palais des orgies. Il y a des décos complètement monstrueuses avec des phallus géants, avec des fontaines. C'est très rigolo. C'est fleuri, c'est très coloré. Voilà. Donc je rappelle la référence. C'est un film de Christopher Sun avec Hiro Ayama, Lenny Lan, Saori Hara et Tony Ho. C'est sorti à Hong Kong il y a quelques mois, c'était en avril. Ça s'appelle Sex and Zen 3D Extreme Ecstasy. Et je conclurai par des chiffres, car ce film,
c'est le plus important à mon avis,
tout bonnement, a juste pulvérisé le record d'entrée d'Avatar. Là-bas, il a fait, il a coûté 3 millions de dollars. Il a fait 360 000 dollars de recettes le premier jour.
Ouais, d'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'il y avait les reportages dans les magazines ciné où on voyait donc les acteurs en train de revoir la scène avec le réalisateur avec les lunettes. Tu dis, bizarre, mais il y a un problème quand même pour le cinéma 3D et tout. Alors je me demande si effectivement, puisque c'est un débat qu'on a eu en off et qu'on a régulièrement off sur l'apport de la 3D, oui ou non, au cinéma, qu'on a d'ailleurs avec des exploitants cinéma qui ne peuvent pas témoigner. C'est un petit peu dommage là-dessus. Est-ce que la 3D aurait vraiment, tu sens, un apport ou non là-dessus, sur ce genre de choses?
Bon, alors déjà, la 3D...
Bon, je sais que tu l'as pas vu justement, du coup, 3D. En 3D.
Ben, en fait, la 3D, déjà, il y en a pas sur les ébats, on va dire. Par contre, on voit effectivement, quand il y a un laser de poignard, les poignards, ils sont en numérique. Donc, à un moment donné, quand il y a des poignards qui te viennent dessus ou qu'il y a quelqu'un qui...
Ouais, non, ouais. Pardon, excuse-moi.
Et qu'il y a quelqu'un qui détruit des décors et tout, t'as les projectiles qui viennent vers nous, mais ça n'apporte strictement rien au caractère érotique du film.
D'accord, c'est dit. Un poète érotique qui fait tout dans la finesse, Michel Houellebecq.
Le poète est celui qui se recouvre d'huile avant d'avoir usé les masques de survie. Hier après-midi, le monde était docile. Une brise soufflait sur les palmiers ravis. Et j'étais à la fois ailleurs et dans l'espace. Je connaissais le sud et les trois directions. Dans le ciel appauvri se dessinent des traces. J'imaginais les cadres assis dans leurs avions. Et les poils de leurs jambes, très similaires aux miens, et leur valeur morale et leur maîtresse hindoue. Le poète est celui, presque semblable à nous, qui frétille la queue en compagnie des chiens. Passé 3 ans au bord de la piscine, sans vraiment distinguer le corps des estivants. L'agitation des corps traverse ma rétine, sans éveiller en moi aucun désir vivant.
Produit par le même qui a fait des albums de Leibar. Oui, je sais, ça change. Michel Houellebecq, Séjour Club. Et c'est extrait de la compilation Au cœur de Tricatel. Vous êtes écouté Radio FMR, c'est le supplément week-end et il est midi 59 minutes et...
Ah, c'est lounge.
Ah, c'est l'heure de passer le bip, tiens. Non, pas celui-là. Pas celui-là, je suis là, tiens. Du sport, ma foi.
Alors,
yes. Ah, yes, on continue, hein.
Yes, sir.
Dans cette ambiance, je suis sûr qu'on va avoir des emmerdes parce qu'il était pas encore 22h30, tu vas voir.
Non, non, parce qu'au niveau des séries, il n'y a que, il y a une série inédite, mais enfin, qui est sortie des cartons. On va dire, ah, tiens, regarde. Oh, regarde, on avait oublié de diffuser cette série, là. On l'avait en carton depuis des années, puis, voilà. Ah ouais, tiens, ça tombe bien, on avait rien à foutre ce soir, là, c'est le samedi soir. On va la mettre. Allez, c'est cool. Et puis en même temps, on va faire du full frontal avec TMC, ouais, tu vois, parce que TMC, quand même, il nous diffuse, Annie Lady également, de Hercule Poirot.
Oui.
David Suchet, hein, producteur, enfin bon, maintenant il fait tout, quoi, y a pas de problème, sauf, bon, bah, c'est pas lui qui est derrière la caméra, bien sûr, qui est diffusé ce soir, Les Pendules.
Il se double même en français, hein.
Les Pendules, c'est ce soir, donc, à 20h40, et c'est le 65e téléfilm de Hercule Poirot. Alors, et ça fait quand même
une question de non-connaisseur, et je vais me ridiculiser certainement, mais est-ce qu'il y a autant de Hercule Poirot à...
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce que...
Il y a 200, je crois, pièces. Oh là là.
Comme beaucoup d'auteurs, il y a pas mal de livres qui sont en fait des livres de nouvelles, c'est-à-dire de petits extraits, il y a plusieurs nouvelles, il y a plusieurs histoires et tout, quoi, qui concernent Poirot, Marple et tout ça. Enfin là, on est dans Poirot de toute façon. Et Agatha Christie était vraiment, on va dire piscopie, quoi, mais ça,
bah, elle,
ça
elle
turbine.
Elle a vécu jusque dans les années 70, ouais, elle avait continué jusque là. Hein,
oui, elle s'est jamais arrêté, hein, de toute façon. Hein, depuis les années 20-30, elle s'est jamais arrêté. Donc, ça
rien
fait du débit
dire.
Quand même, il n'y a pas de problème. Alors, donc c'est ce soir sur TMC à partir de 20h40, Hercule Poirot, donc inédit, hein, de 2011 en plus, hein, qui est sorti également sur la Bible cette année, quoi. Donc, c'est du très très récent. Et donc, c'est en full frontal avec cette série que nous a déniché Canal Jimmy, bon, qui est habitué des séries anglaises, on va dire de toute la bonne partie de la production anglaise en ce qui concerne les séries polars. Il n'y a pas de problème, hein, c'est sur Jimmy qu'on peut se les voir avec quelques années de retard, avec des fois des diffusions qui sont un peu chaotiques, quoique Jimmy tient quand même à l'ordre de diffusion de ces séries, n'étant plus que les chaînes que j'ai l'habitude de massacrer pour les ordres de diffusion. Hein.
Et
ça,
encore.
C'est clair. Hein, ça, c'est clair. Et mais par contre, bon, bah, des fois, on s'y retrouve pas parce que bon, bah, on passe à côté de trucs tels que cette série qui date de 2003 quand même. Et qu'on nous sort maintenant, et qui a comme héroïne Claire Blake, jouée par Amanda Burton. Amanda Burton, c'est bien entendu Autopsy. C'est la série qui est toujours diffusée d'ailleurs sur Jimmy, généralement le samedi soir. Mais Amanda Burton s'est tirée au bout de la 7e, 8e saison. Là, on en est à la 14e saison. Hein. Bon, bah ok, il y a toujours des éléments de cette série sans les éléments qui étaient là au début. Les mecs, en fait, et les nanas ont un petit peu changé. Il y a Amanda Burton au départ, ensuite il y en a une autre, et là on en est à la dernière, enfin bon, qui est toujours en activité, Emilia Fox. Et Amanda Burton, on se demandait ce qu'elle foutait, quoi. Elle était passée à une autre série, donc en tant qu'héroïne principale aussi, Claire Blake, donc police criminelle de Londres. Alors les traductions des titres de séries anglaises, déjà ça laisse vachement à désirer. Bon, on va laisser pisser quand même. Et ça peut paraître intéressant de toute façon, c'est sur Canal Jimmy, c'est ce soir à partir de 20h40, et c'est complètement inédit.
À s'amuser avec les nouveaux lecteurs. Alors, la suite, c'est les films.
Bah ouais.
Mais, actualité oblige, comme il en est beaucoup question en ce moment de valises, et qu'on a un morceau qu'on aime beaucoup sur cette enceinte, c'est extrait. Allez, pour une fois, je donne les références complètes du fond sonore que je vais mettre. Il s'agit d'un album de The Herbalizer, Very Mercenary, qui est d'habitude un peu hip-hop, électro et tout le reste. Et il a un morceau. En fait, c'est une collection de samples, hein, faut pas se leurrer, mais c'est super bien orchestré. et on l'adore, c'est The Missing Suitcase. Et pour le coup, eh ben, il va très bien avec l'actualité. Vous savez, les petites valises que, heureusement, on est bien content de ne pas avoir perdu à l'aéroport à Roissy. Avant d'aller au 55 rue du Faubourg.
Les valises de billets.
Oh, il fait chier, Bongo. Il a encore mis des petites coupures. Eh ben, Dus, vas-y.
Alors, les films cette semaine, que des polars. Bon, ouais, comme ça, il n'y en a pas trop. Hein.
Ça tombe bien, c'est dans l'ambiance. Elle va être bien cette année.
Avec, pour commencer ce soir, c'est sur Ciné Plus Classique. Et c'est pour vérifier l'adage toujours d'actualité, qui sera toujours d'actualité, que dans le cinéma, c'est toujours la même chose. On prend les bonnes recettes, on les retravaille, on les met au goût du jour et ça marche toujours.
C'était pas Shakespeare qui avait dit qu'il y avait qu'une cinquantaine de ressorts scénaristiques?
Ouais, c'est si.
Moins, il me semble.
Moins, ouais, je sais plus.
Il y en a 9, je crois.
Ouais, enfin bon, 13 ou.
Faudrait qu'on le ressorte parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on sort souvent. Alors.
Ouais, sinon, il y a le. De toute façon, Ren n'effacera le concept super qui est écrit dans La Cité de la Peur. Two persons, they meet, then they fight, then they fuck.
Et toi, tu fais des biloutes?
Toi qui fais des biloutes.
Alors, parce que là, je commence par un film qui est vraiment assez vieux, hein, 1949.
Ah. Ouais.
Qui est, réalisé par l'un des maîtres du cinéma japonais, quand même, Akira Kurosawa. Et qui s'appelle Chien enragé. Alors si je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Toshiro Mifune.
Avec Toshiro Mifune, qui est un flic qui a paumé son flingue et qui doit retrouver ce flingue.
Alors j'ai pas vu ce film là.
Et ça te rappelle pas un autre film de Hong Kong?
Si. Qui s'appelait
C'est pas PTU?
Oui,
PTU, hein.
Police Tactique Unit de Jonito.
Voilà, voilà. C'est un petit peu la même chose, quoi.
Eh oui,
un petit peu beaucoup. Oui. Quoi. Ouais, voilà. Bon, bah ok. Histoire de voir un petit peu la différence entre les deux versions à 50 ans de différence.
Sauf que la version Toshiro Mifune, je pense, est nettement plus furieuse.
Ah ouais. Alors, c'est ce soir, donc sur Ciné Plus Classique à 22h30, Chien enragé de Akira Kurosawa. Sinon, ce soir, sur Polar, il y a aussi, à 23h, l'excellent Tueur de dames de Alexander McKendrick, de 1955, avec Alec Guinness, Cécile Parker, Herbert Lom. Vous en avez parlé il n'y a pas longtemps de Herbert Lom. Eh bien, dans ce Tueur de dames, c'est une bande de malfrats qui veulent commettre un casse et qui, pour ça, louent une chambre, une chambre meublée à une vieille dame et tout. Ils se font passer pour des musiciens. Et c'est assez rigolo. Alors ils font jouer un gramophone et tout quoi, en attendant de préparer leur combine et tout quoi, faisant croire. Et puis chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent, ils ont les étuis d'instruments, tu sais quoi. Le violon, l'étui à violon, l'autre qui a le violoncelle, enfin pour faire croire que ils s'entraînent, qu'ils sont en train de répéter. Mais c'est vraiment l'humour anglais à fond les manettes. Le ressort de la comédie, c'est au millimètre près, c'est nickel, hein, c'est vachement bien filmé, c'est dans le Londres de l'époque et tout, décor naturel, enfin c'est
dans son jus.
Oui, c'est ça a tombé par terre, hein, vraiment quoi. Donc c'est ce soir, hein, c'est Tueur de dames sur Polar à 23h. Demain.
Oh,
et ben demain, pas de Polar en fait.
Mais je serai ailleurs moi à 23h.
Demain, t'en fous, t'as l'enregistreur.
Ah, là, là.
Demain, pas de Polar, mais par contre TSM nous fait une journée, un petit peu décalée on va dire, mais c'est une journée spéciale New York avec que des films de toute la journée sur New York. Ok.
C'est une rediffusion. Enfin, ils avaient déjà fait une partie. Il y a une bande-annonce absolument extraordinaire de 2 minutes où en fait, t'avais une carte de New York et la mise en situation de chacun des films, absolument génialissime. Et c'est vraiment dans l'idée, c'est New York justement, mais pas le côté catastrophique. On sort complètement du 11 septembre. Très 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 belle programmation, mon petit du sport.
Ah ouais. Ça commence donc demain matin à 7h du matin. Avec les aventures de Tarzan à New York. Ensuite, un peu plus tard, après ces aventures de Tarzan, on a La Garçonnière, le film de Billy Wilder, hein, avec
tu vas y arriver.
Jack Lemmon, voilà. On y arrive quand même. Non, c'est pas marqué. Hein. Ensuite, Bofix sur New York, un film, une comédie musicale. Ensuite, à 11h, Shaft, Une nuit rouge de Harlem. Ensuite,
le classique.
Après Shaft, Do the Right Thing, hein, typique New York, de toute façon, qu'on a pu voir sur Arte avant-hier, d'ailleurs.
Ouais.
Y a ensuite Le Prince de New York, le film de Sidney Lumet. Y a aussi Hold Up à New York à 14h, à 18h20. Le film de Bill Murray avec Bill Murray et Gina Davis, à un documentaire à 19h50 New York Cinéma, à 20h40 Un Dimanche à New York, c'est le film de Peter Tewksbury avec Rod Taylor et Jane Fonda, et ensuite à 22h25 New York, le film de Scorsese, hein, avec Liza Minnelli et Robert De Niro. Bref, vous en aurez pour votre argent. C'est demain sur TCM, donc un spécial New York lundi, si vous le voulez bien. Sur M6, 20h45, Mesrine, l'instinct de mort, le film de Jean-François Richer, hein, avec le fils Cassel dans le rôle titre, n'est-ce pas? Et sur Polar, lundi prochain, 21h, un bon petit polar anglais de Mike Figgis en 1988 qui s'appelle Stormy Monday. Et qui a un casting qui est assez à toute épreuve. Enfin, on dirait ça de nos jours, mais enfin, moi, à l'époque, on les connaissait pas trop, on va dire, hein. Bon, Melanie Griffith quand même un petit peu. Tommy Lee Jones, pas trop connu à cette époque-là. Sting, c'était un de ses premiers rôles conséquents au cinéma. Et en plus, il le fait bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Il est vraiment convaincant dans sa première apparition. Il me semble.
Alors c'est le film auquel je pense. Il est magnifique.
Alors il est très noir. Ça se passe à Newcastle parce que Mike Figgis est de Newcastle et que t'en as d'autres qui sont de Newcastle, donc ils ont voulu le faire là-bas et tout. Et on se rend compte que c'est pas la joie de vivre là-bas, quoi. Hein, c'est sûr, Newcastle est situé au nord-est de l'Angleterre, c'est juste en dessous de l'Écosse, tu vois, sur la côte, sur la côte est, donc direction la mer du Nord. Je veux dire, il fait soleil, mais pas comme à Toulouse.
Ouais, faut pas faire des barbecues là-bas.
Voilà, enfin, t'en fais moins. À mon avis, tu dois en faire vachement. Mais pourtant, le film est excellent, magnifique, hein, très très bon. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Stormy Monday, donc, c'est lundi à 21h sur Polar, sur la chaîne Polar. Sinon, sur Orange Ciné Choc lundi, il y a également à 20h40 The Chaser de Na Hong Jin.
Non, faut pas être très dépressif, hein.
Non, mais lundi c'est pas mal parce qu'il y a que des bons films en fait. T'as Mesrine, t'as Stormy Monday, t'as Just the Chaser, et sur France O à 20h35 Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle.
Wow.
Jeanne Moreau, Maurice René, la musique de Miles Davis, qu'il a d'ailleurs composé en direct en regardant le film, les rushs et tout ça, et il composait avec ça devant l'écran et tout, quoi. C'est comme ça qu'il a fait la musique. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais enfin, bon, okay, c'est Miles Davis quand même, quoi. Voilà, donc pour cet ascenseur de l'échafaud, et un excellent Maurice René, hein, de toute façon, il y a, chaque fois qu'il y a Maurice René, de toute façon, c'est bon, c'est un excellent acteur, un des meilleurs acteurs français du monde. Là, sans problème, de toute façon. Mardi, sur 13ème rue, à 22h20, là aussi, il est relativement souvent diffusé. Scène de crime de Frédéric Schoendorfer avec Charles Berling et André Dussolier, qui est vraiment pas mal. Ouais, franchement, ouais, quoi. C'est vraiment pas mal.
J'ai été déçu, moi.
Moi, j'ai bien aimé, hein, de toute façon, quoi. Sur TCM aussi à 20h40, bah là, c'est il y en a plusieurs, mais c'est un des grands classiques du polar américain des années 40, Le Faucon Maltais de John Huston.
Mais il est immense.
Bogart, Astor, Gladys George, Peter Lorre, qui est là, monstrueux dans ce film, hein, de toute façon. Mais lui, c'est pareil, hein, Peter Lorre, hein, c'est toujours le même. Et tout
c'est un immense classique. C'est l'Amérique presque en guerre, hein, quand même. Ça décrit.
Bah, c'est en 41, ils sont en guerre. Hein.
En décembre 41, là au moment du tournage, il était pas encore, mais c'est une mise en scène, c'est les acteurs, le bagou, le travail sur de lumière sur le noir et blanc, justement, parce que c'est sculptural comme film.
Ouais, et à la base, il y a quand même le bouquin de Dashiell Hammett. Donc ça le fait aussi un peu. Mercredi généralement il y a pas grand-chose, il y a que des bouses, quoi, mais là j'ai quand même réussi à vous trouver des trucs pas mal, quoi. Avec sur Ciné Plus Club à 20h40, Sans espoir de retour de Samuel Fuller. Tiré du bouquin de David Goudis avec Keith Carradine, Valentina Vargas, Bill Duke et Marc de Jonge. Donc alors le casting un petit peu improbable, on va dire. Mais vu le bouquin et vu l'histoire, on peut se dire que ça peut fonctionner à fond les manettes, surtout quand c'est en plus Samuel Fuller qui le fait. C'est en 89, donc hein, ça peut valoir le petit coup de mirette. C'est mercredi prochain sur Ciné Plus Club. Sinon, Ciné Plus Classique vous propose Mitraillette Kelly, ouais, de Roger Corman avec Charles Bronson, ouais, excellent, excellent. Ah ouais, mais ça c'est un pas mal, hein, Corman pas mal hein, de 58. Ça vaut le coup quand même. Jeudi sur TCM à 20h40, New Jack City de Mario Van Peebles avec Mario Van Peebles, Ice-T et Wesley Snipes dans le rôle du méchant.
Crédible pour une fois.
Ouais non non non, en plus là il était bon hein, il était excellent hein, Wesley Snipes. Et vendredi enfin pour terminer sur France 2 déjà le retour de Un Flic. Là c'est la série.
Ah oui.
Toujours filmé par Patrick De Wolf avec Alexis Deka dans le rôle titre. Là c'est un inédit donc vendredi prochain à 20h35. Le titre de ce téléfilm Pink Panthers. Sur Ciné Frisson vendredi prochain également le premier un premier film magnifique hein, de Joe Carnahan, c'est Narc de Ray Liotta sur Ciné Frisson à 21h avec également Jason Patrick Chi McBride tourné en 2002. Et on termine avec, eh bien, je vous en ai déjà parlé, mais bon, il est rediffusé, ça vaut le coup parce que c'est vraiment un excellent film. C'est TCM qui vous rediffuse vendredi prochain à 20h40, Le Prince de New York, donc de Sidney Lumet avec Treat Williams, Jerry Orbach, hein, qui, bah, à l'époque, il n'était pas encore dans New York District parce que ça n'existait pas encore.
Pas encore hein, ouais.
Non, il fallait attendre 10 ans. Mais Jerry Orbach était déjà un acteur confirmé, mais qui travaillait vachement plus au théâtre, sur Broadway, par exemple, que pour le cinéma. Il avait déjà fait quelques films comme ça, comme des seconds rôles et des trucs comme ça. Mais il est également en second rôle dans ce Prince de New York, des cinémettes qui savait toujours choisir ses interprètes qui savaient toujours comment bien doser on va dire hein, au niveau des têtes d'affiche, des seconds rôles et tout ça.
Il savait justement c'était la vraie direction d'acteur hein, là-dessus.
Voilà. Mais Lumet qui avait fait également du théâtre, qui venait également un petit peu du théâtre, donc il savait un petit peu comment ménager les sensibilités, voilà. Et c'est tout pour cette semaine.
Ça tombe bien parce qu'on a failli être en retard puisque.
Oh, failli.
Bah oui, bah attends, avec la Coupe du Monde, je pense que le du sport va être fourni d'ici quelques minutes. On va rappeler un petit peu de ce qui se passe en sortie dehors. Donc il y a en ce moment, il y a le printemps de septembre avec le radio du bout de la nuit. C'est ce soir à 22h30 sur Radio FMR. Et donc dans la cour d'honneur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Ce soir et le week-end prochain, hein, donc 31 et 1er, donc de 22h30 à 1h, mais ça déborde en général largement. Le 1er octobre, dimanche... Ah bah tiens, c'est fête de la BD à Gaillac, fête du livre à Gaillac,
salon du livre,
voilà, avec les auteurs de Charlie Hebdo, les dessinateurs seront tous présents, ainsi que plein d'autres auteurs justement, il n'y a pas que, heureusement. Le jeudi 29 septembre, je reviens en arrière, Eric Lhomme qui est un auteur de jeunesse et de fantasy, c'est à la librairie Gilbert Joseph. Et le samedi suivant, donc le samedi 8 octobre, Guillaume Bouzard qui dessine The Autobiography of Me chez le Roquin Marteau, qui est plutôt humoristique et tout ça, qui est aussi illustrateur dans Sous-Foot et dans Flic Glacial, ainsi que Rolhomme qui fait Andy et Gina, les aventures sexuelles de deux infographistes. Ce sera là aussi chez la librairie Gilbert Joseph le même jour en plus, voilà. Mais je vois du sport qui s'impatiente. Donc il est peut-être temps de lancer les génériques, de mettre tout ça en pause, hop, piou, pour éjecter tout le reste et de se dire, nom de Dieu, Thomas, il y en a qui nous suivent sur les FM, et il y en a qui nous suivent sur le stream de Radio FMR, et il y en a qui écoutent le podcast en diagonale. Et je suis sûr qu'ils ont manqué des trucs du coup.
Eh ben ils ont manqué un fil rouge ovale, un conte culotté pour les enfants, du sucré, Xavier a pris du plaisir en lisant du chevet, du Lens Glare, un cliffhanger. Un cliffhanger assez pas mal, de l'interruption buccale, une alerte cul, une tripotée de courtisane en 3D, des coups de fil d'auditeurs, de la série dans des cartons en full frontal, une valise de billets, un flingue perdu, une grosse pomme et du polar avec des hold-up.
Nom de choses avec qui se passe sous les draps en satin et tout ça. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives. Par exemple, la chronique de la BD Les Quasi, J'ai rencontré le diable, voir comment est notre nouveau studio de radio, la chronique de Captain Biceps et tout notre dossier sur le cinéma hollywoodien post 11 septembre. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr et vous pouvez même nous poser des questions, nous écrire, dire que vous détestez ou que vous aimez. Ça nous fera plaisir. Supplémentweekend.fr sans accent ni tiret. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Cela fait 30 ans que nous sommes en direct et nous sommes en alternance sur cette fréquence avec Booster FM. Et nous sommes en continu sur www.radio-fmr.net avec les points de rediffusion dans les autres radios et tout le reste, toutes les autres émissions et tout le reste. Dans le prochain épisode, toi tu n'es pas là, est-ce qu'on pourrait se faire une sortie pour justement voir comment est le printemps de septembre et donner nos impressions au micro?
Ah, c'est une idée.
C'est un truc qu'on avait fait pour la toute première, hein, 2002... Non, pour la première saison du supplément week-end, c'est quelque chose qu'on peut refaire.
En 2004, ouais. Oui. On n'avait pas été tendre, mais on refera l'expérience.
Je pense que ça vaut le coup, et du coup, surtout avec les moyens qu'on a maintenant, ça pourrait être fun, surtout qu'on a la radio du off. Ciao, bye bye, rendez-vous de suite avec du sport, avec une balle qui est ovale.